Culture sans frontières.
Le festival du film sur les droits de l'homme One World s'est achevé à Prague jeudi. Il continue en région et se déplacera à Bruxelles en mai. Dans le cadre de la compétition principale, un film français était programmé, celui de Marie Mandy, intitulé « Mes deux seins, journal d'une guérison », consacré à sa lutte contre un cancer du sein diagnostiqué à l'âge de 46 ans. Marie Mandy est cinéaste et elle a choisi de montrer tout le parcours, parfois semé d'embûches, pour guérir ce crâne qui s'était immiscée en elle. De cette expérience est sorti un film, mais aussi un livre de photographies intitulé « Par les yeux d'une Amazone ». Anna Kubeshta a rencontré Marie Mandy et lui a demandé si l'idée de faire un film sur cette épreuve avait été immédiate.
Oui, donc quand j'ai reçu ce diagnostic du cancer, bien sûr j'étais complètement abattue. J'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête, littéralement. Enfin, c'est un moment très très difficile. Mais il se fait que dans les années précédentes, j'avais déjà eu l'occasion d'approcher, pour diverses raisons, les médecines complémentaires, j'avais même été en contact avec des gens qui avaient guéri par des moyens presque alternatifs. Et donc j'ai su instantanément que de toute façon, je ne confierais pas mon corps que à la médecine allopathique, mais que je ferais un chemin de toute façon un peu différent, je chercherais d'autres pistes. Et donc, alors voilà, alors évidemment en tant que cinéaste, j'ai tout de suite pensé que ça c'était quelque chose d'intéressant à partager. En fait, je voulais pas vraiment faire un film sur mon cancer en tant que tel, mais l'idée qui m'est venue, c'est que je pouvais utiliser mon propre parcours pour parler de choses sur lesquelles j'avais déjà des convictions. Mmh. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film, et j'ai décidé très vite, en 3-4 jours. Parce que ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était évidemment de commencer à filmer directement.
De prendre les choses sur le vif, voilà. Si je puis dire. Ouais.
Voilà, et donc d'être... on est allé au résultat de la biopsie, déjà avec la caméra. Et puis c'est là où on a appris, en fait, que cette biopsie qu'on m'avait faite quelques jours plus tôt n'était pas suffisamment... n'avait pas réussi. Et donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pu lire ce qu'ils voulaient. Et donc ils m'ont dit, il faut qu'on refasse une biopsie. Et là, une partie de moi a pensé, eh ben chouette, parce que la biopsie sera dans le film.
Donc ça, c'est la cinéaste qui a repris le dessus, finalement, sur ce que vous dites d'ailleurs dans le film, que sur la cancéreuse, entre guillemets, puisque vous dites très bien dans le film que finalement, ce qui est quasiment presque plus terrible que le diagnostic, c'est finalement la petite case dans laquelle on vous met directement à partir du moment où vous avez été diagnostiquée, en fait.
Le cancer est une maladie très sociale, en fait. C'est pas du tout un truc... qu'on vivrait tout seul dans son coin, mais c'est une maladie qui d'emblée a des effets sur l'entourage, beaucoup de peur, parce que bien sûr, ça renvoie tout le monde à la peur de la mort, y compris les gens à qui on dit qu'on a un cancer, qui vous renvoient à vous, malade, leur propre peur de la mort. Donc il faut gérer ça. Puis c'est une maladie qui, forcément, touche l'entourage aussi par ricochet. Donc c'est quand même... un truc pas si simple que ça à gérer.
C'est avec le sida, est-ce qu'on pourrait dire que finalement c'est un peu les deux maladies du 20e, du 21e siècle, en tout cas de ce millénaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très présent dans l'imaginaire ou le quotidien des personnes, entre les différentes finalement manifestations, les collectes par exemple de fonds, etc.
Je pense que ce sont deux maladies qui sont effectivement des maladies du 20e siècle, bien que le cancer, il existe depuis très longtemps. Hein. On trouve dans des textes anciens déjà des états de personnes qui auraient eu des cancers.
Mais plutôt dans la médiatisation, en fait.
Mais dans la médiatisation, oui. Et puis parce que ce sont des maladies aussi, toutes les deux, auxquelles la médecine ne comprend pas tout à fait comment elles fonctionnent. La médecine sait un certain nombre de choses sur le cancer. Elle a des protocoles pour essayer de, on va dire, l'éloigner. Si possible, guérir, mais en fait, ce sont des protocoles relativement par tâtonnement. Hein. Aujourd'hui, la médecine n'essaie toujours pas d'expliquer comment les cellules cancéreuses, par exemple, se propagent dans le corps. Je veux dire, ça reste un mystère.
Oui, donc... puisque vous rappelez en plus dans ce film-là que finalement, et puis les médecins autour de vous, qu'on vit tous finalement potentiellement avec des cancers en nous, sauf qu'ils se développent plus ou moins.
En tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que certainement un des points communs entre ces deux maladies, le sida et le cancer, c'est que ce sont deux maladies qui demandent en fait au système immunitaire une réponse très forte. Parce que le cancer aussi, je veux dire, c'est grâce à notre système immunitaire qu'on va pouvoir éliminer régulièrement des cellules qui sont anormales, qui s'abriquent tous les jours dans notre corps, des cellules anormales. Et c'est quand le système immunitaire est faible que ces cellules anormales vont s'agglutiner, vont finir par muter et vont éventuellement tourner en cancer. Je pense que la plus belle leçon de tout ça, c'est que vraiment, il faut qu'on prenne soin de notre corps. Enfin, je veux dire, de manière préventive, je prends toujours un exemple qui est très simple, mais tout le monde va penser à amener sa voiture au garage pour faire des entretiens. Mais qui pense à entretenir son corps de la même manière, vraiment, avant d'être malade, je veux dire, et vraiment se dire, bah oui, faut capitaliser ce qu'on a. Et surtout faire du sport, c'est pas de la bêtise, vraiment, ça aide à garder un très très bon état, faire du sport, faire attention à ce qu'on mange, enfin, je veux dire, ça reste des principes de base, quoi.
Alors vous disiez il y a quelques instants, vous parliez de ces protocoles médicaux finalement qui sont là pour enrayer autant que faire se peut un cancer. Alors vous allez voir au cours de ce parcours de nombreux médecins, peut-être beaucoup plus que d'autres personnes. Vous essayez déjà de connaître un petit peu toutes les variantes possibles puisque vous refusez très vite d'attaquer d'une autre manière votre corps, de manière intrusive, que ce soit par la chimio ou d'autres méthodes. Déjà, combien de temps tout cela a-t-il duré? Parce que finalement, vous voyez beaucoup de personnes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir finalement cette médecin vers laquelle vous allez finalement vous tourner en Belgique, votre pays d'origine en plus?
Donc en fait, entre le moment où j'ai eu le diagnostic et le moment où j'ai finalement consenti à une première opération, il s'est passé d'à peu près 3 mois. Donc c'est pas énorme. Je m'étais renseignée quand même sur le fait de savoir si je me mettais en danger en prenant du temps. Parce que le gros problème, et je l'ai vécu encore avant-hier en ayant au téléphone une amie qui vient d'avoir découvert un cancer du sein, c'est que les médecins vous reçoivent et automatiquement ils vous donnent un rendez-vous pour une opération, mais très très vite. Et les gens sont sous le choc et n'ont même pas l'idée que peut-être ils peuvent reculer la date, parce que cette date ne les arrange pas, que peut-être ils ont besoin de réfléchir et d'aller voir un second médecin pour un second avis, parce que voilà, les gens sont sous sidération. Et donc la médecine, elle a tendance à traiter ça à la chaîne en disant, voilà, le protocole, c'est ça, on le fait. Et ça demande un certain recul de dire, attendez, oh, c'est moi le malade ici, hein, c'est quand même mon corps. Peut-être que je vais me soigner comme vous me le dites, mais je veux juste un peu de temps pour réfléchir, me renseigner, voir un deuxième médecin, prendre un deuxième avis, parce que quand même, on se rend compte quand on prend plusieurs avis que tous les médecins ne proposent pas la même chose. Et donc, toute la question de savoir, c'est est-ce qu'on se met en danger ou pas en faisant cela, bien sûr, en prenant du temps. Mais si le cancer n'est pas très invasif ou pas très avancé, bien sûr qu'on a le temps. Donc moi, j'ai pris ce temps. Je voulais ce temps, qui n'était pas démesuré. Donc ça a duré en tout entre 3 et 4 mois. Hein.
Du coup, ça a dû être intensif aussi, à la fois le tournage et les décisions personnelles, parce que ça vous engage vous. Mais à côté de ça, il y a aussi ce tournage qui se déroule finalement quasi en temps réel, quoi.
Oui, bien sûr, mais en même temps, c'était voilà, j'ai pas arrêté, je ne suis pas arrêtée de travailler, ça m'a permis de faire un film en même temps. Ce qui était bien, parce que ça occupait mon esprit, ça me permettait de comprendre des choses, puis de les partager, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est une partie de mon travail de cinéaste, c'est bien ça, c'est faire des films pour essayer de, voilà, d'aider à penser, d'aider à comprendre.
Ce qui m'a étonnée dans le film, c'est alors, à un moment donné, donc, dans cette phase de thérapie, puisque d'une certaine manière, le film aussi est une forme de thérapie, en plus de la thérapie médicale, c'est votre questionnement et les recherches que vous faites en vous, de manière intime, sur la raison de ce cancer, que peut-être c'est vous-même ou votre propre corps qui l'avait provoqué, finalement quasiment avec une espèce de croyance, j'allais dire chrétienne, que vous l'avez pas mérité, mais d'une certaine manière qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes tombé malade. Et en même temps, enfin, tout le film démontre que vous êtes une femme forte, volontaire, qui est indépendante, qui fait des films, etc. Enfin, une femme, voilà, moderne. Et ça contredit complètement, j'ai l'impression, cette image-là. Enfin, moi, ça m'a semblé très paradoxal, finalement, cette recherche d'une faute ou d'une culpabilité.
Oui, alors moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti, en fait. Parce que pour moi, pour moi, les maladies ont un sens. Mais ça, c'est une conviction que j'avais depuis le début. Hein, même avant le diagnostic, je pensais déjà ça. Donc quand on m'a dit que j'avais un cancer, je me suis dit, ok, alors qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bien sûr que c'est une maladie qu'on se fabrique soi-même. Ça n'est pas une maladie qui vient de l'extérieur. Je veux dire, c'est pas un microbe qui vous attaque, un cancer. C'est quelque chose qu'on fabrique à l'intérieur de soi. Et donc, je me suis dit, mais alors pourquoi je me suis fabriqué ce cancer? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Donc le film est effectivement une quête de sens sur cette question. Et c'est en fait la chose qui m'intéressait le plus. C'était cette thématique-là. Mais pour moi, il n'y a absolument pas de culpabilité là-derrière, il y a simplement une responsabilité. Alors j'oppose justement la responsabilité à la culpabilité. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, ça va très bien avec le fait d'être une battante. C'est-à-dire que je me sens responsable de ma vie, et comme je suis responsable, je peux agir sur ma vie. Eh bien, comprendre ça, ça m'a permis justement de retrouver de l'énergie, de retrouver de la force vitale, de dépasser, et donc finalement de guérir en profondeur. Et aussi, aujourd'hui, de savoir les choses que je ne dois pas faire pour ne pas me mettre en danger. Donc c'est aussi une espèce d'assurance-vie sur l'avenir, si vous voulez. Donc pour moi, c'est vraiment un acte de responsabilité de dire, ok, je suis pas une victime du cancer. Je dis, là, je regarde la réalité en face, je regarde les choses avec lucidité. vous voyez.
À la fin de ce long parcours, il y a quand même eu des étapes, puisque vous faites opérer une première fois, qu'il y a des résultats de cette première opération qui montrent que finalement le cancer est beaucoup plus développé. Donc vous avez dû subir une ablation du sein. Alors évidemment, il y a quelques scènes quand même très piquantes de recherche de dans un magasin de prothèses mammaires. Le choix, est-ce que je vais prendre une prothèse mammaire? Est-ce que il existe des soutiens-gorge avec un seul sein ou pas? Je sais que vous avez rencontré également d'autres personnes, d'autres femmes qui ont eu des cancers du sein. Est-ce que vous savez en gros combien de femmes refusent comme vous de faire une reconstruction du sein, par exemple en France? Et pourquoi celles-ci font-elles ce choix comme vous?
Alors en France, il y a à peu près 300 000 femmes qui n'ont pas reconstruit leur sein. C'est à peu près autant que la population de la ville de Montpellier, ça vous donne une idée, c'est beaucoup de femmes. Et donc de femmes qui se font appeler des Amazones, c'est ce qu'on dit des femmes qui ont perdu un sein dans la bataille du cancer, on va dire par analogie avec ces guerrières de l'Antiquité, hein, qu'on appelait les Amazones, et en fait qui se coupaient volontairement un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Donc en France, il y a 300 000 femmes qui ne se sont pas fait reconstruire. Alors, je pense que chacune a des raisons personnelles pour cela. Il faut savoir qu'une reconstruction est une opération compliquée et douloureuse, qu'il n'y a pas forcément de bonne solution, surtout pour les femmes très jeunes, parce que tous les 10 ans, il va falloir mettre les seins à niveau. Vous imaginez, si vous faites par exemple reconstruire un sein avec une prothèse, c'est un sein qui va rester très haut, toujours, puis l'autre, il va vieillir. Après, on peut reconstruire le sein aussi avec notamment de la graisse qui est prélevée dans le ventre des femmes qui ont du ventre. Ça veut dire qu'on fait une cicatrice dans le ventre. On peut reconstruire un sein avec un muscle du dos qu'on fait glisser sous le bras, donc un muscle qui est ramené du dos vers la poitrine pour créer du volume. Mais donc c'est un sein qui va être en matière musculaire, donc qui va avoir des crampes comme les muscles. Alors ils sont incapables de faire des mamelons, donc de toute façon c'est pas très joli.
Oui, c'est tatoué. J'ai appris à cette occasion-là que finalement, on tatoue les mêmes.
On tatoue un mamelon, Donc moi, je me suis demandé, est-ce que j'ai besoin d'avoir un faux sein? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce volume pour rester féminine, femme? Ou est-ce que finalement, ma féminité est quelque chose de bien plus intérieur et que je peux tout à fait continuer à vivre avec un sein? Donc, moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais plus envie de me faire opérer et que je pense aussi que quelque part, puisque j'ai fait ce chemin... personnel, psychologique, qui est aussi quelque part un voyage spirituel, pour se reconnecter à son identité profonde. Puisque j'ai fait ce chemin, est-ce que je ne peux pas aussi assumer que finalement mon corps porte la trace de ce que j'ai vécu? Et c'est là, et c'est ce que je suis aujourd'hui.